Radio Galère 88.4.
Tao, la voix, le chemin.
Ah ouf, voilà le bon chemin.
Bonjour, bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, la deuxième partie de l'émission sur la fabrication de violons avec Ludovic Lassard. Bonne écoute.
On prend une table de fond, par exemple. Et on lui dessine le contour. Quand on peut, avec cette forme, on fait et la table et le fond en renversant. Mmh. On creuse la fameuse table. On lui fait le dessin, le contour. On le retourne et on lui fait une voûte avec des rabots, justement.
Une fois que tu l'as découpé ?
Une fois qu'on a découpé la forme externe, on peut le galber avec des rabots ou des gouges si on veut, il y a toutes les méthodes. Et quand on a fait l'extérieur tout propre, on peut faire l'intérieur, les épaisseurs.
Ouais.
L'extérieur, c'est un peu comme un pont, comme une cathédrale, comme une maison, mais vu que c'est arché et qu'il y a des arches, des voûtes, c'est un peu plus comme une cathédrale. Et à l'intérieur, c'est ce qui fait la résistance. Ou pas. Et à l'intérieur, les épaisseurs viennent compenser les faiblesses ou là, on rentre vraiment dans la matière qui fait sonner. Si on fait une épaisseur trop fine, ça sonne tout de suite l'instrument, mais dans 5 ans ou 10 ans, l'instrument, quand le bois se sera piétrifié, l'instrument sera trop fin et deviendra un carton s'il n'y a pas assez d'épaisseur. Ah ouais. Alors que si on laisse beaucoup d'épaisseur, la période de rodage d'un instrument, c'est pas moi qui le dis, c'est des Anglais, la famille Hill, qui étaient à Londres, qui ont vu tous les instruments possibles, imaginables, qui en ont construit, restauré des générations et des générations de luthiers. Et eux disent que la période de rodage d'un instrument, c'est 40 ans. En dessous de 40 ans, on ne sait pas si c'est du lard du cochon, si ça va sonner ou pas sonner.
Ah ouais?
Et donc,
c'est long.
C'est très long. Comment vendre quelque chose comme ça à part par réseautage, je le connais parce qu'il est sympa ou parce qu'il est connu.
Ouais, si tu faut que tu attends la moitié de ta vie pour savoir si tu peux vendre ton violon, c'est quand même.
Bon, on a des senteurs quand même parce qu'on voit quand même si un instrument est riche en
ouais,
harmonie.
Ouais, parce qu'en fait, il faut que tu te projettes aussi dans la durée.
Un instrument qui est trop fin tout de suite, dans 10 ans, il est bon à brûler.
Ça, ouais, parce qu'en fait, le bois, ça bouge tout le temps, quoi. C'est jamais. C'est comme la peau, quoi, en fait.
Thank you. bois, c'est vivant comme tout, ouais. C'est chouette.
Ouais.
Il faut voir la matière d'un instrument ancien quand le bois est déjà pétrifié, qu'il est tout doux, il devient au son, il devient chaud et doux. C'est une belle impression à avoir. J'ai pas d'instrument aussi ancien ici
à faire sonner,
à te faire écouter la différence. Mais c'est beaucoup plus acerbe sur un instrument neuf. C'est pour ça qu'il faudrait acheter un instrument neuf quand on est jeune, en fait. C'est très cher, mais il faudrait, à 10 ans, acheter un, quand on a la taille, d'acheter un... Parce que c'est en fonction de la taille du...
Du bras.
Du bras, justement, de l'enfant. On peut pas toujours... ils peuvent pas avoir un violon grand dès qu'ils sont nés. Donc, il y a des tailles de 1/18, même 1/32. Et ça existe des toutes petites tailles, vraiment, on dirait des jouets, on dirait des maquettes. Mais ça joue, et un instrument neuf, il faudrait le donner à quelqu'un qui a 10 ans pour qu'il puisse justement avoir cette période de rodage de au moins 10 ans déjà, et voire même grandir avec son instrument. Parce que donner un instrument neuf à peine fait à un musicien pro, il va avoir deux cordes nasales, alors qu'il n'y en a que 4 sur le violon. Deux vont être nasales pendant 10 ans. Et commencer à se libérer doucement, s'il a déjà 40 ans, il faut qu'il attende encore 40 ans, ça va être...
Ah ouais, ouais.
C'est un peu biblique. Les temps sont naturels aussi là-dedans, on ne peut pas manipuler la chose. Tout le monde a essayé de les mettre dans les étuves, on a tout essayé. Ouais. Mais ça ne marche pas, c'est le temps naturel.
Oui.
Tout le monde arrive, essaie de vendre mon violon sonner mieux que le Stradivarius, mais...
Ouais.
S'il y a beaucoup l'ego qui parle, et c'est ridicule aussi de ne pas voir autant de profondeur. Après, chacun voit, mais
ouais.
Il peut y avoir des très bons instruments, ça je dis pas. Il y a des très chers, il y a des instruments de luthiers très connus qui les font très fins, qui sonnent pendant 10 ans, et après tout le monde les revend, et ces gars-là vendent leurs instruments 100 000 euros, 100 000 dollars.
C'est énorme.
C'est des modes. Il y a souvent, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous représente.
Eh oui.
Il y en a eu dans toutes les époques ces luthiers-là qui faisaient des belles copies ou plus ou moins. Mais ça sonne, sonne pas longtemps.
D'accord. Et ouais, donc du coup, les cordes, c'est quelle matière, les cordes du violon?
Les cordes, à l'origine, c'était du boyau. De moutons, mais souvent c'était du
chèvre de mouton.
Ouais. Ouais. Et il y en a encore quelques-uns en Italie qui en font des cordes pour les instruments baroques, qui sont restés en boyau. Maintenant, les nôtres sont en nylon.
De quoi, tu coupes finement le boyau, c'est ça, ou
Il vient torsadé. Et en fonction
de il torsade le boyau.
Il torsade le boyau, et je sais pas s'il le passe dans une très fileuse. Pour que ça ait toujours le même diamètre, mais je crois que c'est juste torsadé.
D'accord.
Et régulier, torsadé, séché. Maintenant, c'est en nylon, et on a tous les alliages possibles, parce que ils sont revêtus aussi. Ça, c'est du boyau, par exemple.
Ah ouais, c'est fin.
Et il peut y en avoir des énormes pour la contrebasse, des cordes de contrebasse en boyau, ça existe. Et c'est vraiment très gros. Mais nous, maintenant, on a des alliages. On a de l'aluminium, le tungstène, le chrome, qui plus en a d'alliages, plus en met. Il y a des cordes en or avec un fil d'or à l'intérieur. Il y en a qui mettent un fil d'or plus du boyau autour, plus revêtu de nylon, d'aluminium, pardon, pas de nylon, de métal.
Et c'est aussi fin que...
Et c'est aussi fin que ça, ouais.
C'est minutieux, hein, dis donc.
Ah, faire des cordes, c'est quelque chose, ouais. Ils se sont... C'est un boulot, ouais.
Ah, donc fabriquer un violon, en fait, il y a plein de corps de métier réunis.
Il y a aussi
réunis,
ceux qui
quoi.
Fabriquent les clés.
Ça, c'est un autre métier aussi, à part entière.
On peut les faire parce que j'ai un tour à bois, à métaux, on peut faire ça avec des bons modèles.
Ouais.
Et c'est prêt maintenant, ça devient presque intéressant de les faire soi-même, parce que le bois, pareil, qu'on trouve, et souvent c'est des entreprises indiennes maintenant, ou chinoises, et déjà ils déforestent, c'est abusé. Après, il coupe mal le bois, il le fissure pas, il le coupe à la scie, donc ça va pas dans les veines, donc ça vibre moins, déjà une chose. Après, mécaniquement, vu que le bois est frais, ça risque de s'ovaliser. Et si une clé est ovale, ça va pas du tout, ça lâche le mécanisme, et du coup, la corde est lâchée. Il faudrait presque les faire soi-même. Ça
ouais.
serait intéressant. Moi, je fais beaucoup de choses. Je fais les touches, j'en ai fait certaines...
Qu'est-ce
certaines...
que t'appelles les touches, en fait?
Les touches, ouais. C'est le morceau d'ébène qui est en dessous des cordes, qui est dur.
Comment tu sais que lui va bien sonner, enfin qu'il est fini, que là, tu peux l'assembler?
On sait que certaines épaisseurs sont comprises entre... faudrait pas descendre en épaisseur en dessous de 2 mm. Ce serait très risqué, ça peut faire des trous, des...
Donc c'est pas à l'oreille, c'est à l'épaisseur, quoi.
Ça se fait à l'oreille aussi, ça se fait au toucher, en pliant le bois, en regardant... En sentant la vibration à travers les mains, on peut tapoter dessus, on peut le mettre sur des supports en mousse avec un haut-parleur en dessous et en fonction des fréquences, on met du sable dans la table un peu partout et en fonction des fréquences, on voit le dessin où les nœuds...
Mais donc tu fais sortir une fréquence de l'enceinte.
Ouais.
Ah, et donc aux vibrations, tu vois...
En fonction de chaque fréquence,
tu vois si c'est homogène,
il y a un dessin, déjà, oui, droite-gauche, vous regardez si c'est
symétrique.
Ah, ouais,
d'accord.
Et après, rien n'est forcément symétrique en soi, parce que on lui met même une barre d'harmonie à l'intérieur de la table, qui va en dessous du chevalet, pour donner l'élasticité au violon, ça sert pour les basses, c'est en dessous des cordes basses, quand ça appuie, ça donne la vibration à la table, et de l'autre côté, pour compenser ces basses, il y a une âme qui est mise exactement la même en dessous du pied, de l'autre pied, du chevalet, et l'âme, c'est un petit cylindre qui va faire contact avec le fond, du coup, Et sur le
c'est
front.
C'est la lame ou une âme?
Une âme.
Ah, c'est joli, hein.
Ouais, c'est beau. Ouais. Et le tout, c'est que l'instrument se torde un peu en fonction. Le fond, ça représenterait le diaphragme dans un corps quand on chante. C'est c'est exactement le diaphragme. Où est-ce qu'il faut pousser? Où est-ce qu'on sent qu'il y a de la matière? Où est-ce qu'on sent la profondeur dans le fond? La table, elle sert un peu de woofer. Oui. Ça fait une expansion et raréfaction d'air. Le son qu'on entend, c'est une expansion et raréfaction d'air. Mmh. Et ça crée de l'air.
D'accord.
Le petit plateau, le grand plateau, avec le chevalet, quand il pousse, la table se lève. Et quand le chevalet se lève, la table pousse.
D'accord.
Et ça fait tout un mouvement ondulatoire. Tu le sens bien, hein, aussi. Tu fais vibrer un violon. Et que tu mets ta main en dessous.
Ouais.
La vibration dure longtemps, 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 longtemps. Le plus longtemps c'est, mieux c'est. Donc,
ouais.
Il faut avoir une espèce de 8, de continu, une impression d'une vague à l'impression de l'instrument.
Ouais, comme l'infini en fait.
Exactement. La forme du violon, ça ressemble.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et en fait, là, les trous.
Les ouïes.
Les ouïes.
Les ouïes, c'est justement pour l'air à l'intérieur qui se déplace pour faire sortir, du coup, faire sortir le son. Si c'était.
Et ça te demande un calcul assez précis, non? Puisque c'est.
Tout est construit autour de ça.
Et ah ouais, d'accord.
La distance la plus courte entre les ouïes, ça représentait en. Du temps de où sont nés les violons, du temps de Stradivarius, du Stradivari. Et même avant, cette distance la plus courte entre les ouïes représentait une once crémonaise. C'est assez symbolique, une once. On n'avait pas les maîtres jusqu'à Napoléon qui a tout unifié et a instauré le système métrique. Il y avait des pieds, des onces.
Et c'est quoi une once?
Une once, c'est comme un pouce à peu près. C'est divisé. Alors il y avait les onces de. Tout le monde avait des poids et mesures différents. Les onces crémonaises étaient 3,41, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 3,41. Mais c'était symbolique.
Ouais.
C'est 41, quelque chose. 41, quelque chose. Mais le fait de dire que c'est 1, ça voulait dire déjà quelque chose. C'est assez fort de symbolique. Pourquoi 1 et pas autre chose?
Parce que c'est pas parfait, c'est ça?
Et je sais pas, j'ai eu.
1, tu veux dire 3,1.
1,1, nous maintenant on fait ça, on dit oui, c'est du 4,13, 4,1, alors que les Crémonais disaient c'est 1. Ça c'est une once.
D'accord.
Et nous, les Anglais mesurent en pieds et en pouces, c'est super compliqué aussi les mesures avec ça.
D'accord.
Donc c'était né en fonction du régionalisme, c'était très fort, c'était une culture forte à l'époque, le violon,
l'instrument par excellence. C'est vraiment en fonction de l'environnement, en fait, un peu comme nous, quoi.
Ouais, tous les arts se développent avec
enfin,
ça.
Je veux dire, le son, la tonalité, tout ça, c'était en fonction de l'environnement.
Et puis Renaissance baroque italienne, hein, une période de paix, de mécénat et les arts ont foisonné.
C'était, ouais, ça fait rêver, ouais.
C'était quelque chose, ouais.
Ouais.
Et nous, on se rapporte avec la Renaissance baroque italienne, alors.
D'accord.
C'est un peu plus compliqué comme ça.
Et la longueur du manche, c'est aussi en fonction des ouïes, hein. Tu me dis tout part de là. Hein.
Tout part de là, de la.
T'as un calcul à faire qui est standard pour pouvoir
ouais, il y en a
avoir la bonne mesure du manche.
La longueur du manche, par exemple, c'est 2/3. Je sais plus si c'est du diapason ou de la longueur de la caisse, mais de toute façon c'est une division, tout est harmonieux. Cette partie la plus fine du violon, ça représenterait 1/3 de la caisse. La partie du bas la plus large, ça représenterait la moitié de l'instrument, et celle du haut, ce serait le nombre d'or.
Ah ouais, mais le nombre d'or, c'est aussi un calcul qu'on utilise en architecture.
Ouais, il y en a, c'est dans la nature le nombre d'or. 1 plus racine de 5 sur 2. Ça fait 1,618.
Machine.
Non, j'ai pas. J'ai une scie à ruban et une meuleuse pour affûter mes outils.
Ça, c'est des ratissoirs, on appelle ça. Des morceaux de fer avec juste une petite bave à l'extrémité, une petite bave d'acier qui fait comme une dent. Où on peut, c'est un outil de finition pour racler le bois. Et vu que c'est du métal, ça le rend lisse. Et on voit même la personnalité du geste à travers ça. Si on fait une finition au ratissoir, c'est brillant. On voit les pores sont ouverts. Alors que quand on utilise du papier de verre, les pores viennent tout de suite boucher.
Ouais, c'est plus écorché, quoi, en fait.
C'est plus doux, ça atténue tout. C'est comme de l'eau, à peu près, le papier de verre. Ça...
ça ronge, quoi, quelque part.
Ouais, ça ronge quelque part, ça adoucit, c'est plus mordant. C'est plus mordant, ça perd de personnalité aussi. C'est un peu plus chaud, mais si on en abuse, on enlève la personnalité. Alors qu'un violon fini au ratissoir, c'est pas facile à faire, mais le fini est beau comme tout.
Et toi, tu utilises les deux, en fait, ou...
Ça dépend des bois, ouais. Si le violon fend, on a les presses sur les côtés. Ça, c'est une pince à âme. Une fois qu'on a l'âme, c'est le petit cylindre dont je parlais tout à l'heure. On installe ce petit cylindre en le piquant avec la pince à âme. Et on l'insère par l'âme à l'intérieur. Et on vient le caler juste ici, tout que comme ça quand il est fermé.
D'accord.
Après on peut le régler avec l'autre partie.
D'accord.
Le déplacer et on règle la sonorité de l'instrument avec ça.
C'est comme un mur porteur, quoi.
À l'âme, c'est l'âme du violon, c'est ce qui fait tout, c'est ce qui fait la différence avec une guitare dont le fond vibre que par sympathie. Alors que celui-là, c'est l'âme lui donne directement, vu qu'il est en plus juste en dessous du chevalet, donc de la pression. Et qui fait balancier avec la barre d'harmonie, il donne l'impulsion au fond. C'est ce qui fait vraiment la
violon. Vibration. Ouais. Ouais. Et ben.
Qu'est-ce qu'on a comme outil sympa encore ici? Les vernis aussi, il faudrait faire soi-même les vernis.
Et ça, c'est quoi là, à côté des petits marteaux là, des petits,
Ça?
Ouais.
Ça, c'est un trusquin. Un trusquin, c'est pour avec une, il y a une butée et une lame ou deux lames pour marquer une distance en creusant dans le bois. Là, il y en a deux pour créer le petit canal pour mettre un filet à l'intérieur. Ça, les bandes de couleurs qu'il y a tout autour du violon, c'est trois lamelles de bois collées entre elles et encastrées dans un petit canal qu'on fait.
Avec ça, tu traces le.
On trace le canal.
D'accord.
Après, avec des canifs et des bédanes, on creuse le canal.
Ça, c'est un diapason ?
Exactement. 440.
Ah, c'est la fréquence à laquelle il doit sonner.
C'est la fréquence moderne. À l'époque, il y avait les. Dans le baroque, ils étaient à. Ils ont changé souvent de diapason. Il était à un moment 430, de 416. Plus de calcul, la précision et de l'énergie. Mettre de l'énergie là-dedans.
Ouais, c'est, mais tout, c'est une préparation en soi, quoi.
On peut tout mettre, oui. Moi, je crois qu'il faut être énergétique avant de faire les instruments. Quand on est fatigué, on fait un instrument fatigué, c'est pas bon.
Est-ce que tu arrives à en vivre, en fait, de ce métier, ou c'est compliqué?
Alors, j'en vivais quand j'étais en Italie, et j'étais à mon compte, et j'en vivais. Pas grassement, mais parce que j'ai pas voulu descendre à des compromis. Beaucoup font, on achète des instruments chinois en blanc. En blanc, ça veut dire pas vernis. Qu'ils mettent leur nom dedans et qu'ils les vernissent et mettent leur nom dedans. Mais c'est pas eux qui l'ont fait. Après, ils défendent une qualité crémonaise, par exemple, où j'étais là-bas. Horrible. Et de toute façon, ça vieillit pas. Donc je me suis fâché avec eux. Et du coup, moi qui fais pas ces histoires-là, j'ai été...
Ah, tu t'es fait manger, quoi.
Ouais, je me suis fait mettre à côté, mais c'est... Mais grâce à ça, que j'ai été mis sur le côté, j'ai rencontré mon maître, qui est le magicien du son en Italie.
Il s'appelle comment, ton maître ?
Moroder. J'ai fréquenté en tous ces temps. Mais pendant 5 ans, tous les jours, j'apprenais quelque chose de nouveau, mais quelque chose d'utile, un vrai savoir utile sur le violon. Vraiment, faut arrêter les écoles de lutherie et recommencer par l'apprentissage.
Ouais, je suis assez d'accord.
Et ça, c'est le rapport au temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Des instruments qui vieillissent et qui durent dans le temps, mais qui sonnent pas et les musiciens sont fâchés, ou faire un instrument qui sonne tout de suite et dans le temps, il sonne plus.
Ben merci pour cette interview.
Avec plaisir, merci à toi.
Radio Galère 88.4.
Radio Galère 88.4.
Tao, la voie, le chemin.
Ah ouf, voilà le bon chemin.
Merci pour votre écoute. Sur la route, des extraits de Philip Glass Closing, Jacob Joseph, Orkinski, Azmita Manta et les 4 saisons de Steve Reich. Bon après-midi, à bientôt.